Récemment, j'ai lu sur un mur Jésus revient. Jésus, c'était écrit Jésus revient, Jésus. Jésus, mais c'est pas rien. Jésus, c'est le ciel. Et c'était écrit Jésus revient. Et les gens passaient à côté indifférents. Tiens, Jésus revient. Bon. Il y en a même qui faisaient des réflexions désobligeantes. Oh, ben il a mis le temps, dites. Je l'ai entendu, moi, je l'ai entendu. Et si c'était vrai, et si Jésus revenait, ce serait merveilleux, non? Jésus revient! Il est là! Où là? Mon Dieu!
Bouffon de Dieu, c'est Raymond Devos lui-même qui s'est nommé ainsi lors d'une interview qu'il avait accordée voilà 12 ans à Anne-Marie Tardivelle. Il nous reste ces mots avec lesquels il aimait tant jongler. Des mots moins travaillés parfois que dans ses sketchs, plus spontanés, lorsqu'il acceptait de se dire un peu, comme ce jour-là au micro d'Anne-Marie Tardivelle.
Raymond Devos, dans un de vos sketchs, vous dites que la question de Dieu, ça se pose pas. Puisque Dieu est réel, alors ça se pose ou ça se pose pas cette question ?
La question, a priori, ne se pose pas. Elle se pose quand même tout le temps. Et finalement, elle se pose pas. Parce qu'elle se pose tout le temps, parce que l'idée de Dieu est une idée terrible. Dieu existe-t-il ? Personne ne l'a vu. Quelle est la... etc. Voilà, ce que dit la raison. On va en croire quand même. Moi, je me suis amusé quelquefois à dire ça à mes proches, en me disant, si j'allais voir le curé de ma paroisse, et que je lui disais, mon père, cette nuit, Dieu m'a visité, il est venu me voir, qu'est-ce que dira le prêtre ? Il dira, asseyez-vous de vos, reposez-vous, détendez-vous. Et puis il ira dans la pièce à côté, il appellera ma femme, et dira, dites, votre mari est là, il me semble pas très bien. Il m'a dit, il tient des propos curieux. Alors que le prêtre le prie tous les jours. Vous voyez comme c'est une idée terrible, l'idée de Dieu. Mais on est toujours obligé d'y revenir. On a beau nier, moi je crois pas. Eh bien les gens qui disent ça à un moment, vous allez les surprendre, ils vont tomber à genoux, je ne sais pas, dans un moment de détresse, ils vont implorer quelqu'un. Et que ce quelqu'un sera forcément Dieu.
Dieu, vous l'avez rencontré dans vos sketchs, seulement dans vos sketchs ou ailleurs ?
Vous savez que la question que vous me posez est une question très indélicate.
Oui.
Et une question terrible. Parce que j'en parle jamais de ça. Je n'ose pas en parler. Parce que j'ai eu une illumination. Je ne devrais pas dire ça, parce que c'est des choses tellement personnelles. Mais je l'ai eu. Et dans un moment de détresse. C'est pour ça que je parle comme je viens de le faire là à l'instant. C'est-à-dire cette espèce de lumière. Dieu est lumière. Si Dieu est visible, il est visible par la lumière. C'est une lumière éblouissante. Mais moi, je l'ai eu, cette lumière. Alors évidemment, après, on peut la mettre sur le dos de n'importe quoi, cette lumière. C'est ce que, malheureusement, on fait souvent. Mais il n'empêche que l'illumination, je l'ai eue. Et c'est quelque chose dont on se remet très mal. Parce qu'on est tellement ébloui. On touche tellement quelque chose d'universel, d'essentiel, que après, tout est terne. Alors, je pense que tous les gens qui ont éprouvé cette espèce de sensation divine, comme ça, après ils ont du mal à s'en remettre. Parce que quand ils sortent de ça, que ce soit d'une église, comme un Froissart,
oui.
C'est un exemple extraordinaire, et qui a le courage de le dire. Mais quand ils sortent, tout est terne, les gens marchent tête baissée. Tout est d'une très grande tristesse. C'est là où on voit que la condition humaine est une condition terrible.
Et peu divine ?
Ben, par rapport à Dieu, on n'est rien du tout.
Hier, il était 2h du matin. Il y avait du brouillard comme ça. Une atmosphère hitchcockienne. Et tout d'un coup, j'entends « Fils d'Abraham ! Fils d'Abraham ! » Comme j'étais tout seul, je dis « Oui !» Je dis « Qui êtes-vous ? » Et j'entends une voix lointaine qui dit « Je suis Jéhovah !» Comme il n'y avait pas de témoin. Je dis « Je vous écoute !» Et la voix me dit « Tu es bien le fils d'Abraham ? » J'ai dit entre autres. Je ne suis pas le seul. On est tout un peuple à être le fils d'Abraham. Et la voix me dit, j'ai justement un appel au peuple que je viens de lancer. J'ai dit, pourquoi moi? Il dit, parce qu'on n'a trouvé personne d'autre.
Vous savez ce que l'on dit de moi? On dit que j'extravague, parfois que je délire. Moi. Alors qu'il n'y a pas plus raisonnable que moi, il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Je ne fais que rapporter les faits tels que je les observe. Bon, évidemment, il y a observé et observé. Ça dépend du sens qu'on donne au mot observé. Bon, exemple, quand on demande aux gens d'observer le silence, au lieu de l'observer comme on observe une éclipse de lune, ils l'écoutent, tête baissée. Ils risquent pas de le voir, le silence. Parce que les gens redoutent le silence. Alors lorsque le silence se fait, ils le meublent. Quelqu'un dit, tiens, un ange passe. Alors que l'ange, il n'a pas vu passer. S'il avait le courage, comme moi, d'observer le silence en face, l'ange, il le verrait. Je suis désolé de vous le dire, mesdames et messieurs, mais lorsqu'un ange passe, je le vois. Je suis le seul, mais je le vois. Évidemment, je ne dis pas que je vois passer un ange, parce qu'aussitôt dans la salle, il y a un doute qui plane. Je le vois planer. Évidemment que je ne le dis pas non plus, que je le vois planer un doute, parce qu'aussitôt, les questions... Comment ça plane un doute? Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? À son ombre. L'ombre d'un doute. C'est bien connu. Si le doute fait de l'ombre, c'est que le doute existe. Il n'y a pas d'ombre sans doute. Et on sait le nombre de doutes au nombre d'ombres. S'il y a 100 ombres, il y a 100 doutes. On a dit oui depuis que De Vos a pris une boule sur la tête. Il n'est plus comme avant. Il est mieux. Et c'est vrai. Mais avant, j'étais un mécréant. Je ne croyais ni à Dieu ni à diable. Je me permettais de questionner le ciel. Dieu, si tu existes, envoie-moi une preuve de ton existence. Depuis, j'ai la foi. Quand je me suis retrouvé à genoux, j'ai dit, bon, ça y est. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Parce que même avec Dieu, il ne faut pas tenter le diable, hein. Alors on a dit, que n'a-t-on pas dit? Oui, si Dieu a lancé une boule sur la tête de De Vos, c'est pour qu'on parle de lui. Pas de moi, de Dieu. Oh. Moi, j'en ai pas besoin.
Grand témoin, RCF.
Vous parlez de Dieu derrière les piliers, les églises, dans un de vos sketchs, ou de la petite Jeannette qui prétend que des voix lui parviennent d'outre-tombe. Alors vous y croyez à tombeau ouvert?
Mais parce que c'est notre histoire, parce qu'il y a eu des miracles. Je ne sais pas s'ils ont tous été vérifiés, mais il y a eu des miracles, il y a des miracles. Et moi, je vais même plus loin. Mais ça, c'est ce qui est merveilleux dans la position de bouffon. Je suis dans la position d'un bouffon, c'est-à-dire le bouffon du roi qui se permet de dire des vérités au roi, comme ça, un petit peu, hein, en racontant par la bande, hein, pas ouvertement, mais il fait bien comprendre au roi qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, hein, ou qui sont douteuses, ou tout ça. Eh bien, l'humoriste, en fait, c'est le bouffon de Dieu. On pourrait l'appeler le bouffon de Dieu. Il a quand même certaines prérogatives. Je vais même jusqu'à dire que par moments, il fréquente le diable. Mais en connaissance de cause.
Oui.
Il le sait, il le sait. Mais c'est son travail un peu. C'est pour ça que c'est une position difficile, la position d'amuseur. c'est qu'effectivement, on touche à Satan, on le fréquente un peu, puis on revient quand même, hein. Mais on est un peu entre les deux, c'est vrai. Alors moi j'avais fait une plaisanterie là-dessus en disant que si la maman de Bernadette avait dit à Bernadette, à chaque fois que Bernadette levait la tête, « Écoute, regarde où tu mets les pieds », jamais Bernadette... Comme quoi, d'un côté, vous avez le bon sens. Regarde où tu mets les pieds. Sans ça, tu vas marcher sur quelque chose, tu vas tomber. Ou tu vas... Et c'est quand même en regardant le ciel que Bernadette a vu la Vierge.
Est-il plus facile de croire quand on gagne au tiercé ou quand on perd un ami?
Là, ce que j'ai écrit un sketch là-dessus, oui. Sur le tiercé. Ça illustre bien une certaine position. Quelqu'un qui gagne au tiercé, et puis tout d'un coup, il se dit quand même que c'est de l'argent qu'il n'a pas gagné. Et alors, il est là, il se plaint auprès du bon Dieu en disant, mon Dieu, c'est pas bien ce que vous venez de faire. Vous m'avez fait gagner. Alors, il dit, je veux pas ce billet, je veux ça. Et il dit, écoutez, vous n'avez qu'à me le dire et je le déchire. Puis finalement, comme le ciel ne lui dit rien, il le garde et il va le toucher. Ce qui est très humain. Vous voyez? Alors, perdre un ami, un véritable ami, c'est une catastrophe. Ce sont des sentiments, des liens qui sont brutalement rompus. Je parle d'un véritable ami, hein, je ne parle pas des amis, des centaines d'amis qu'on peut avoir. Mais un véritable ami, c'est vrai que c'est quelque chose, et ça touche, tout ce qui est des grands sentiments, ça touche un peu au divin. Hein, ou alors, si un sentiment n'est pas béni des dieux, c'est pas un grand sentiment.
Et vous pensez que là-haut, vous aurez l'éternité pour penser à l'éternité?
Vous savez qu'il y a une phrase qui est terrible, je ne sais pas qui a dit ça, mais j'aurais voulu l'inventer. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin.
Il y a tout à l'heure, 15 ans de malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis de l'accordéon. Parti bon train, voir Sylvestrin et la Java, avait gardé droit de cité chez Jéhovah. 15 ans bientôt, musique au dos, t'en allais mener le bal à l'amicale des feux follets. En cet asile par Sainte-Cécile, pardonne-nous de n'avoir pas su faire cas de ton bignou. C'est une erreur, mais les joueurs d'accordéon au grand jamais, on ne les met au panthéon. Mon vieux, tu as dû te contenter du chant de navet, sans grande pompe et sans pompon et sans avet. Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré, en rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer. Et dans nos cœurs, pauvres joueurs d'accordéon, il fait ma foi beaucoup moins froid qu'au Panthéon. Quel temps fait-il chez les gentils de l'au-delà? Les musiciens ont-ils enfin trouvé le la? Et le petit bleu, est-ce que ça ne le rend pas meilleur d'être servi au sein des vignes du Seigneur? Si de temps en temps, une dame d'antan se laisse embrasser, sûrement papa, que tu regrettes pas d'être passé. Et si le bon Dieu aime tant soit peu l'accordéon, au firmament, tu te plais sûrement, mon vieux Léon.
Raymond Devos, vous arrive-t-il parfois de douter, d'avoir des crises de foi, et combien de fois?
Vous jouez déjà sur les mots, hein?
Un petit peu.
Vous jouez sur les mots. Mais comment voulez-vous ne pas douter? C'est notre condition, la condition humaine, est une condition terrible. On est tout le temps entre la foi et le doute, tout le temps. Encore en vertu que c'est contre la raison. C'est presque contre la raison, la religion. Hein, ou alors il faut avoir la foi du charbonnier. Je crois. Bon, et puis à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on croit. Mais c'est pas tellement, j'allais dire, raisonnable. On est bien obligé de se poser des questions. Et pourquoi on ne s'opposerait pas sur la religion, qui est quelque chose, quand on dit que il y a... Et puis quoi, on parlait d'éternité, c'est quand même toute la vie éternelle qui est en jeu. C'est est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? C'est capital. Vous savez que tout le phénomène du rire repose là-dessus. Et pas que le phénomène du rire, c'est le phénomène humain qui repose sur l'idée de la mort. C'est ce qui nous distingue des animaux, on le sait bien. Les animaux vivent l'instant présent, car ils ne sont pas si bêtes que ça, les animaux, faut pas croire. Mais ils n'ont pas ils ne réfléchissent pas. Hein, c'est pas le phénomène de la réflexion, c'est l'homme qui en franchit ce pas. Et il est seul, jusqu'à présent. Hein. Et ils ne réfléchissent pas. Donc, ils n'ont pas le sens du passé, de ce qui est derrière eux, ni le sens de l'avenir, ce qui est encore plus important. Parce que l'homme, il a le sens du futur. Et le futur va aboutir à quoi? À la mort. Vous vous rendez compte? C'est contre cette idée constante de la mort que tout se fait, que tout se joue, qu'on organise sa vie. Alors, il faut oublier cette idée-là. L'idée de la mort, si on veut, parce qu'il y a l'instinct de la conservation. Et tout ça pour aboutir à quoi, finalement? À la mort, on le sait. C'est terrible, cette espèce de déchéance. Et pourtant, il faut vivre. Et la vie, c'est formidable. C'est fabuleux. Vous voyez comme il y a une contradiction terrible. Alors, on vit, et tout d'un coup, à propos de quelque chose, d'une circonstance, on a tout d'un coup l'idée de la mort qui revient. Enfin, à propos d'un ami cher qui vient de disparaître, on y revient. Un ami cher qui disparaît, c'est tout d'un coup l'idée de la disparition de quelqu'un. Un corps et âme, c'est quelqu'un qui tout d'un coup disparaît. Et on en est tous là, on va tous disparaître. On le sait. Mais il faut vivre. Et quotidiennement, d'où les rêves, d'où le divertissement, rire. Parce que quand on rit, on oublie le réel. Ça, c'est trop long à expliquer, mais on le dit en deux, trois phrases. Rire, comme rêver, c'est momentanément oublier le réel. C'est-à-dire se reposer de cette échéance terrible qui est la mort.
Le réel ou l'absurde du réel?
Ah, ben ça, l'absurde du réel, il est fatal dans la mesure où on réfléchit. Comment voulez-vous, quelqu'un qui réfléchit un peu, je ne sais pas s'il a raison, mais sur les grandes questions, d'où venons-nous, qui sommes-nous, on y revient, on rabâche là, on radote.
On y revient toujours.
Où allons-nous? Ce sont des questions, mademoiselle, qui n'ont pas de réponse. On a beau se les poser et continuer de se les poser, elles n'ont pas de réponse. Elles ont une réponse dans la mesure où on pense qu'il y a une autre vie ou des choses comme ça. Mais en soi, position, elles n'ont pas de réponse. D'où venons-nous? On n'en sait rien. On vient du néant. D'un coup, il n'y a qu'un petit être qui se crée et qui s'incarne. Et puis que tout d'un coup prend conscience et dit son nom. Et puis, il a tout un trajet à faire avec encore, une fois, cette échéance. Tout ça, ça peut être merveilleux, comme ça peut être d'une très grande détresse. Vaut mieux choisir le bonheur, hein. Vaut mieux choisir le...
Alors, vous choisissez le bonheur.
Moi, je choisis le bonheur. Je crois qu'on m'a aidé considérablement à choisir le bonheur. Parce qu'on m'a donné une vocation. Une vocation, ça vous est donné par qui?
Par Dieu.
Là encore, pourquoi pas, on peut toujours le penser.
On peut le penser, oui.
D'ailleurs, les prêtres, on dit, il a la vocation. Je crois qu'il faut avoir la vocation pour être un prêtre. Sans ça, on est un mauvais prêtre, ou un prêtre malheureux. Eh bien, les gens qui ont une vocation, ils ont un destin. C'est comme si c'était un peu écrit à l'avance, tracé. Et à un moment, ils prennent conscience de ça. Ils sentent qu'ils font partie de quelque chose, d'une grande ligne, à quelque chose. Et c'est merveilleux, parce que ça les met. Ils ont une petite étoile quelque part, qui s'allume tout le temps et qui les guide. C'est quand même formidable, hein. Il y en a sans doute, on entend des rois mages. Mais on n'a pas toujours des présents dans les bras, c'est un peu dommage, on devrait toujours en avoir à sa disposition. Parce qu'il faut être reconnaissant, cette petite étoile de briller de temps en temps, parce que c'est la sienne.
La vôtre, votre vocation, c'est d'être bouffon de Dieu?
Ben, c'est la première fois que j'emploie cette expression, mais je la trouve assez intéressante. Vaut mieux être le bouffon de Dieu que le bouffon du roi. C'est quand même encore l'étage au-dessus.
Figurez-vous qu'un jour, à la fin d'un bon repas, au moment où on apportait les pâtisseries, quelqu'un me dit, monsieur, pourquoi n'écririez-vous pas un monologue sur la faim dans le monde? Je lui dis, parce que ce ne serait pas drôle. Il dit, si c'est vous qui crevez de faim, les gens vont mourir de rire. Je lui dis, si c'est ça, d'accord, je m'y mets. Et tout de suite, j'ai repoussé les pâtisseries et j'ai quitté la table. Comme j'avais un peu oublié ce que c'était que d'avoir faim, j'ai fait maigre. C'est-à-dire que j'ai jeûné, ça s'est vu tout de suite. On a dit, tiens, le vieux jeûne. Et dès que je me suis senti le ventre creux, j'ai compris que la fin était proche. Je me retourne et je vois, parmi toutes sortes de gâteaux, un millefeuille. Épais comme ça, nappé de sucre glace blanc, avec de la crème qui débordait entre chaque feuille. Et aussitôt, j'entends une voix intérieure qui me dit « Tu ne vas tout de même pas manger ce millefeuille à toi tout seul ?» Et une autre voix intérieure encore plus profonde, chiche. « Oh, j'en étais bien capable !» Et puis une troisième voix intérieure que je ne me connaissais pas. « Tu vas partager ce millefeuille en trois. Tu en donneras deux tiers au tiers-monde. Et tu garderas le troisième pour toi. » Non, j'ai dit, je ne veux pas marchander, mais deux tiers pour le tiers-monde, est-ce que c'est pas un tiers de trop? Et puis, est-ce que ça leur parviendra? Pour peu qu'il y ait un intermédiaire indélicat qui se moque du tiers-monde comme du quart, et qui dévie un des deux tiers à des fins personnelles, je préférerais manger les trois tiers en entier, au moins je saurais où ça va. Et puis la question s'est posée, où manger un pareil millefeuille? On peut pas manger un pareil millefeuille devant tout le monde, ce serait indécent. Faut se cacher, mais où se cacher? Où? Dans l'église, peut-être. Ah oui, dans l'église, peut-être. Ah oui, mais si le curé me surprend, oh, je ferai semblant de feuilleter. Derrière un pilier, oui. Ah, mais derrière un pilier, il y a Dieu là-haut qui vous voit. Alors, on joue les dons camillots. Moi qui te prenais pour la crème des hommes. Mon Dieu, cette sangle de pauvres feuilles. Oui, mais il y en a mille. Pense à ceux qui ont faim, homme de peu de foi. Pour ta pénitence, tu me copieras 100 fois le mot faim et 100 fin le mot froid. Je ferais peut-être mieux de prendre une religieuse. Je me retourne et qui je vois derrière la vitre, je vous le donne en mille, une religieuse, une vraie, authentique, nappée. Avec deux gaufrettes, deux cornettes. Et elle montrait mon millefeuille du doigt comme ça. Alors, j'ai frappé la vitre, ma soeur, il y a à moi ce gâteau, il y a à moi. Vous pouvez faire une croix dessus. comme elle semblait ne pas comprendre. J'ai essayé de l'influencer mentalement, de dévier son doigt.
Prends pas celui de feuille, là. Prends plutôt la tarte qui est à côté, là. Non, passe-moi celui de feuille, là. Prends la tarte qui est à côté, là.
Tu vas la prendre, la tarte. Et pour plus de sécurité, je suis entré dans la pâtisserie et j'ai entendu la religieuse qui disait « Pour les pauvres de la paroisse, donnez-moi 24 nonnettes. » Elle me dit « Et vous, monsieur ?» Et moi, je dis « Je voudrais ce millefeuille qui est là. » Et de l'autre côté de la vitre, je vois deux grands yeux de gosse qui regardent ça dans un petit visage défait. Ça m'a rappelé ces images insoutenables de la fin dans le monde que je croyais avoir oublié, effacé de mon esprit. Alors là, j'ai dit, on ne peut plus rire. Là, on ne peut plus rire. Là, on ne peut plus. Alors, j'ai vaguement entendu la vendeuse qui disait, c'est pour manger tout de suite. J'ai dit, non, madame, c'est pour offrir, s'il vous plaît. Alors, j'ai pris le millefeuille, j'ai payé, je suis sorti, et je l'ai donné au gosse. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que le gosse est allé se cacher derrière moi pour le manger. D'autant que les gens s'étaient arrêtés, il y avait un attroupement. Alors il y a une maman qui disait à sa petite fille, « Tu le reconnais ? C'est le comique qui fait la grève de la faim pour nous distraire. » Et la petite fille qui disait, « Maman, qu'est-ce que ça mange un comique ?» Là. L'homme de spectacle que je suis a repris le dessus. J'ai sorti mon manuscrit de ma poche, j'ai mordu dedans à pleines dents. On a dit, il est bon. Et j'ai mangé tout mon manuscrit, feuille après feuille, sauf la dernière. Alors les gens qui veulent toujours connaître le mot de la fin, pourquoi ne mangez-vous pas la dernière feuille? Et la part du pauvre? Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Le plus beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais osé vous le dire par pudeur, mais c'est fou ce que je vous aime. Je n'ai vécu que pour vous. Et je suis prêt à mourir pour vous, là, tout de suite, je sais, si vous le souhaitez. Je vous savais, gens intelligents. Je voudrais mourir sur scène comme Molière, mais même pas dans un fauteuil. Un strapontin suffirait à ma gloire. Savez-vous une chose? Si je mourais, là, tout de suite devant ces messieurs, dames, je ne suis pas sûr que dans la salle, il n'y ait pas quelqu'un qui crierait remboursé. Là, mesdames et messieurs, mettons-nous bien d'accord. Qu'il n'y ait personne pour suivre mon enterrement comme pour Molière, je veux bien. Qu'il n'y ait pas d'oraison funèbre comme pour Molière, je veux bien, mais remboursé jamais. D'ailleurs, vous savez fort bien, mesdames et messieurs, qu'avec la conscience professionnelle qui me caractérise, s'il fallait que je meure devant vous, ce serait à la toute fin du spectacle. Avant que le rideau ne tombe dans la tradition moliéresque. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Je vous aime.
Grand témoin, RCF.
Le salut. Face aux crises de foi, vous le devez le plus souvent aux jeunes. Je fais un clin d'œil au sketch sur le millefeuille. À vos engagements pour les pauvres, pour sauver la part du pauvre.
Ça. Vous abordez le phénomène de la générosité.
Oui.
Et du partage. Il ne faudrait pas demander ça à un humoriste. Il ne faudrait pas demander ça à un amuseur. un monsieur qui monte sur un podium et qui a la prétention de distraire les gens qui sont devant lui. Je sais pas pourquoi, c'est... Moi, je participe à beaucoup de choses, mais pas assez par rapport à ce qui m'est donné. Pas assez. Et encore, la générosité, ce qu'on appelle la générosité, il faudrait qu'elle soit totale ou pas du tout. Dieu merci, par moments, elle, justement, elle est, bon, parce que totale, c'est pas possible, et pas du tout, c'est triste. C'est paradoxal, mais ça devrait être sans partage. Les vrais, j'en parlais l'autre jour, les grands, Sœur Teresa, l'abbé Pierre, ce sont des gens qui n'ont rien. Et qui donne tout. C'est-à-dire, quand même, quand on réfléchit un peu, ils font donner aux autres. L'abbé Pierre, il fait donner, il demande l'aumône. Sœur Teresa, elle a des dons. Mais qu'est-ce qu'elle donne en contrepartie? Sa vie. Et il n'y a que ça qui peut compenser. Ça pourrait pas être des petites compensations d'eux. Or, nous, c'est toujours un peu calculé.
Oui.
C'est pour ça qu'il faut mieux pas trop s'en vanter ni en parler.
Mais faire rire les gens, ça leur donne envie de vivre. C'est généreux, ça.
Mais je suis bien de votre avis, mais il faudrait pas se dire « j'ai déjà donné
oui, ».
Parce que j'ai amusé les gens, j'ai donné. Mais moi, souvent, c'est ce que je pense. Mais c'est pas très brillant, quand même.
Bon, les anges, vous y croyez? Vous les voyez souvent? Et êtes-vous toujours le seul à les voir sur scène ou dans la vie?
Ah, les anges! Oh, madame. Madame, oui, les anges, ben, j'ai tellement envie que de les voir, sans doute que je finis par les voir, moi. C'est formidable de voir passer un ange. D'ailleurs, les gens voient passer un ange, ils disent constamment, tiens, un ange passe. Ah, ils disent un ange passe, alors ils n'ont pas vu. Mais ils le disent, c'est déjà quelque chose.
Et Dieu, finalement, pour vous, c'est un tiercé dans l'ordre?
C'est quelque chose comme ça. C'est une puissance. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je trouve que c'est plus rassurant qu'il soit trois.
Il est moins seul?
Oui, je trouve que c'est Dieu le Père, il y aurait Dieu le Père. Mais il y a le Fils qui est là. Et puis il y a le Saint-Esprit, alors vous parliez des anges, c'est là qu'ils sont. Quand on entend un bruit d'aile, merveilleux d'entendre un bruit d'aile. Tiens, il faudrait que j'écrive quelque chose là-dessus. J'ai entendu un bruit d'aile. J'ai cherché en me disant, tiens, il doit y avoir un oiseau quelque part. Il n'y avait pas d'oiseau. Et le bruit d'aile continuait.
Et c'était pas une vue de l'esprit?
Moi, j'espère que si.
Vous c'était une vue de l'esprit. L'homme, la fin de l'homme, la terre promise, l'espérance, qu'est-ce que c'est pour vous? Et faut-il être dans la lune pour penser à Noël?
Je crois que si on était dans la lune, on ne penserait pas à Noël. Noël, c'est très terrien. Noël, quand on songe aux souvenirs de Noël, déjà, bon, c'est la nativité. Et puis, les souvenirs sont des souvenirs très physiques. C'est quelquefois l'odeur des anges. Pour certains, c'est tout ça. C'est la crèche. C'est le petit Jésus. C'est tout ça. C'est immensément riche, Noël. Mais je crois que dans la lune, où il n'y a rien. Où il n'y a que des cratères. Mais non! La lune, c'est fait pour rêver. C'est pas fait pour y aller. D'ailleurs, je pense que c'est merveilleux au point de vue exploit. Mais on a eu tort. On a eu tort d'enlever quelque chose à la Lune. C'est-à-dire sa signification, son pouvoir de rêve, ses chants. Et encore, c'était tellement beau à voir que ça a donné tellement d'émotions. Mais comme toujours, ce sont des émotions redoutables parce que ce sont des émotions qui tuent les autres. Ce sont des émotions exactement comme faire éclater l'atome. C'est quand même formidable de faire éclater l'atome. C'est beau. Seulement, on décharge des forces. On les épuise. Ben, c'est comme ça qu'on détériore. Et je pense qu'en ce moment, on a un peu tendance à faire éclater des choses et à les faire disparaître. Et moi, quand je fais éclater des mots, quand c'est vrai, ça m'arrive de faire éclater des mots, mais il faut toujours que je me rachète par quelque chose, hein, parce que c'est quand même une dégradation. Alors dégrader, c'est formidable, mais il faut compenser, il faut trouver autre chose. Hein. Ça c'est un mal du siècle. On dégrade et puis on reconstruit pas à côté. Alors je parle des forces morales surtout, parce que l'homme par ses inventions, par ses créations, je pense qu'il a fini par s'imaginer qu'il n'avait pas besoin de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de valeur morale. Et sans valeur morale, il ne tient pas le coup.
Et l'espérance, pour vous, c'est de l'ordre du réel ou du rêve de la Lune ?
Oh, c'est bien une conjugaison des deux. Hein. On espère. Espérer quelque chose, on est dans le désir, là. J'espère que ça va bien se passer. Mais ça encore, c'est des trucs qui sont sympas. Mais j'espère que, pouvant m'offrir ceci, avoir ma petite maison, hein, des espérances, et ça peut être aussi des espérances encore plus grandes. Hein. Bon. Mais l'espoir fait vivre. Je pense que sans espoir, on ne vit pas. S'il fallait se contenter du réel, on serait très malheureux. Parce que file très vite, ce serait sec. Bon, voilà, on est bien. Mais les gens qui ont tout ce qu'il faut, ils sont très malheureux. Très malheureux.
On va faire un petit retour sur scène, sur l'un de vos sketchs. Jésus vient-il souvent dîner chez vous ?
J'avais organisé ça un jour. J'avais organisé un petit dîner et j'avais invité Dieu et le diable aussi. Parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison. Ben, ça, c'est mal terminé.
Comment ?
Je ne suis pas sûr que Dieu vienne souvent dîner. Et pourtant, de temps en temps, je l'invite. Mais quelle prétention d'inviter Dieu chez soi, pour soi tout seul. Ou alors, il faudrait vraiment inviter pas mal de gens. Je suis pas. Et pourtant, je suis sûr que Dieu. Enfin, là, je vais un petit peu exagérer. Je vais me faire passer pour meilleur que je ne suis. Mais je me demande si Dieu ne consentirait pas à se déranger exceptionnellement pour quelqu'un. D'ailleurs, l'illumination, quand même, c'est moi qui l'ai eue. J'étais tout seul. Il n'y avait pas de témoins. Et les gens qui ont, ça encore une fois, hein, ça on n'est pas au courant de tout, mais il y a des gens qui ont eu des apparitions, c'est pour eux. La preuve, c'est que quand ça devient public et que les gens viennent assister à ça, ils voient rien. Ça reste un phénomène personnel. Ou alors ça peut arriver, là j'exagère, il y a eu des. Mais enfin là c'est douteux, hein, attention, bon. Il faut que ce soit très contrôlé. Je me plais. Tiens, il faudrait que ça me donne une. Devinez qui vient dîner ce soir. Mais j'ai écrit un sketch quand même. Je parle de Judas. J'ouvre le Judas et je m'aperçois que c'est Dieu. Hein ?
C'est
j'ai
ça.
J'ai fait ça.
Et oui.
Oh bon, alors c'est dommage parce que sans ça, j'aurais bien refait. Mais je l'ai, quand même, je ne suis pas. Ce serait quand même formidable de faire un sketch où on a invité Dieu comme ça, un petit peu, j'allais dire, oh, excusez-moi le mot, mais un peu au flanc. J'ai dit à Dieu, dites donc, j'aimerais bien que. Et je m'attendais à un refus. Et Dieu a dit, mais volontiers, quand voulez-vous, prenons date. Alors j'ai sorti mon carnet, lui, il n'avait même pas besoin de carnet, il savait tout par cœur. Et j'ai dit, écoutez, mercredi, tel. Ah, il m'a dit, attendez. Ah non, là, mercredi, non, parce que j'ai une apparition. Bon. Mais jeudi, si vous voulez. Et j'ai dit, d'accord. Et jeudi, précisément, à 8 heures, on frappe à ma porte. D'ailleurs, on n'a pas frappé. Il est passé au travers. Et même pas. pour être tout à fait franc. Moi, j'ai vu l'heure passer, j'ai dit, tiens, il ne viendra plus. Je me suis assis à ma table, et qui je vois juste en face de moi, assis, prêt à consommer le bon Dieu. J'ai dit, merci, vous êtes venu. Et raconter le dîner. Seulement, il faudrait peut-être un Judas quelque part, pour que ça prenne quand même une autre dimension.
Celle de la passion ?
Ce serait intéressant parce que j'aurais pu avoir prévu que Judas viendrait aussi. Hein? Et j'aurais pu aussi avoir apporté quelques deniers pour lui donner tout de suite pour qu'il ne trahisse pas.
Une petite question que j'aimerais vous poser, Raymond DeVos. Est-ce que par vous, sur scène, Dieu lance un appel au peuple ? Je pense au fils d'Abraham.
Oui, mais quelle dérision, quand même. Quand même une dérision. Mais je crois qu'il y a quelque chose. Mais dès qu'on s'adresse aux gens, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Dès qu'on s'adresse aux foules, là, on touche un peu à la politique, il faut être inspiré. Ou alors, c'est la langue de bois. On dit des choses, on dit même des mots qui devancent la pensée. On finit par meubler. Je pense que quelqu'un qui s'adresse, il vaut mieux s'adresser comme moi, c'est-à-dire s'adresser aux gens pour les distraire. Parce qu'il y a des gens qui s'adressent, qui haranguent la foule et qui sont redoutables. On a eu des exemples, hein. Mais un homme politique, quand même, je crois que s'il n'a pas... C'est pour ça qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe sur le plan moral, c'est dramatique que les hommes politiques qui sont responsables de la gestion d'un pays n'aient pas de moralité, ou bafouent la moralité. Parce que là, c'est fini. On ne peut plus rien espérer. C'est pour ça que c'est dramatique ce qui se passe en ce moment. On parlait de confiance. La confiance est en train de disparaître. Et si on n'a pas confiance aux gens, mais tout ça sont des sentiments. Confiance aux gens, c'est de dire, faites ce que vous croyez devoir faire, on a confiance, on vous fait confiance. C'est formidable. Hein, ça disparaît de plus en plus. Enfin, on trouve de moins en moins ce genre de choses.
Ça vous donne un peu matière à rire ?
Ben Dieu merci, pour moi tout est matière à rire, parce que c'est mon travail.
Vous savez que je viens de faire une découverte bouleversante, bouleversante. En observant la matière de plus près au microscope, j'ai observé des atomes qui jouaient entre eux et qui se tordaient de rire. Mais ils riaient sans décrocher les électrons. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de la découverte ? Hein ? Oh ben, j'ose pas trop en parler, parce que j'entends d'ici les savants. Monsieur, le rire est le propre de l'homme. Mais peut-être, mais en attendant, moi j'ai entendu des atomes qui... Alors maintenant, de qui riait-il ? Peut-être de moi. Mais ce n'est pas certain. Il serait intéressant de savoir ce qui amuse les atomes, parce que si on savait ce qui les amuse, on leur fournirait matière à rire. C'est bien qu'on ne les ferait plus éclater que de rire. Alors, la fission nucléaire, une explosion de joie !
Grand témoin, RCF.
Récemment, moi, j'ai lu sur un mur, Dieu existe, je l'ai rencontré. Ça m'étonne. Non, que Dieu existe, la question ne se pose pas. Mais que quelqu'un l'ait rencontré avant moi. Oh, ça m'étonne. Parce que j'ai eu le privilège de rencontrer Dieu juste à un moment où je doutais de lui. Dans un petit village de Lozère, vous savez, abandonné des hommes, il n'y avait plus personne. Et en passant devant la vieille église, poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré.
Et là, j'ai été ébloui par une lumière intense, insoutenable. C'était Dieu. Dieu en personne. Dieu qui priait. Je me suis dit, qui prie-t-il ? Il ne se prie pas lui-même. Pas lui, pas Dieu. Mais non, il priait l'homme. L'homme, il me priait, moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait, ô homme, si tu existes, un signe de toi. J'ai dit, mon Dieu, je suis là. Oh, il a dit, miracle. Une humaine apparition. J'ai dit, mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme puisque c'est vous qui l'avez créé ? Il m'a dit, oui, mais il y a si longtemps que j'en ai pas vu un dans mon église que je me demandais si c'était pas une vue de l'esprit. J'ai dit, vous voilà rassuré, mon Dieu ? Il m'a dit, oui, oui, je vais pouvoir leur dire là-haut, l'homme existe. Je l'ai rencontré.
Êtes-vous vraiment quelqu'un de spirituel ?
Vous l'entendez sur un plan religieux ou bien sur un plan
du nouveau ? Les deux se rejoignent
peut-être. Mais je crois que les deux, vous avez raison. Je crois qu'on pourrait employer le même mot pour les deux. Parce que dans l'humour, il y a quand même une spiritualité, ou alors c'est très méchant. Mais ce n'est pas parce qu'on dit certaines vérités ou qu'il n'y a pas de spiritualité dans le sens noble du mot, hein. C'est l'humour, c'est indéfinissable. Mais c'est un peu comme le rêve, et comme la poésie, je devrais dire. Laissons le rêve de côté. Le rêve, c'est tout à fait particulier, le rêve. C'est un exutoire. Hein, le rêve, ça peut être très, très étrange, et très, très curieux, étonnant, même un peu douteux, et c'est les mauvais instincts qui se libèrent. Mais la poésie, ce qu'on appelle la poésie, c'est trouble. C'est pour ça qu'on n'explique pas, qu'on dit, qu'est-ce que c'est que l'humour ? On peut pas, ça se fait entre deux, trois mots, des mots, ça fait... Et c'est cette vibration qui est intéressante. On peut pas expliquer une vibration. On peut expliquer ce qui l'a provoqué. Mais on ne peut pas expliquer l'impression qu'on ressent quand on reçoit cette vibration. Donc, l'humour et le comique, quand même, et la poésie, il y a des liens de parenté.
Humour, humilité, humeur.
Tout ça, c'est la même résonance. C'est différentes résonances harmoniques du même mot.
Ma dernière question. Dieu et vous, est-ce une histoire d'humour ?
Pas toujours. Ça l'est souvent. Sans ça, je ne pourrais pas... Il y a un moment, je me dégoûterais. Je ne suis pas du côté du diable. Hein. Mais je vous ai dit que je le fréquentais de temps en temps. Et je me demande si ce n'est pas notre... Ce que nous devons faire... Mais ça devrait être pour les autres. Alors si chacun en même temps se fréquente le diable, de son côté, on n'a plus une grande raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Mais c'est vrai que Dieu et moi... Pourquoi vous posez des questions pareilles ? Je trouve ça, Dieu et moi...
Est-ce que c'est une histoire d'humour ?
Heureusement que je n'ai pas dit moi et Dieu, parce qu'alors... Non, mais c'est vrai que l'idée de Dieu, justement, dans la mesure où c'est une lumière, c'est une vibration. On reste dans les vibrations. Et dans les vibrations, c'est une question de... Comment dirais-je ? D'émotion, c'est une question de... Alors ça se fond. On est presque à l'aise dans les vibrations. C'est un langage, les vibrations. Ça peut être un langage, en tout cas. Et là, c'est un langage que tout le monde comprend. Merveilleux. Si je parle, moi, à l'emploi des mots, il y a des gens qui ne comprendront pas ce que je dis. Mais si je fais ressentir quelque chose, alors là, je serai sûr d'être compris.
Et faire une belle histoire?
Mais est-ce que la belle histoire, la vraie histoire, c'est pas l'histoire racontée par les historiens, c'est notre histoire. Elle n'est pas finie. Et si vous le permettez, je ne vous dirai pas la fin.